VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du lundi 10 décembre 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Le Congolais Denis Mukwege et la Yazidi Nadia Mourad récompensés à Oslo avec le prix Nobel de la paix.
Je vis avec la souffrance tous les jours. Les honneurs, c'est pas ça le plus important.
Dossier spécial dans la deuxième partie de ce journal. L'Union européenne prolonge pour un an ses sanctions contre des personnalités congolaises, dont le candidat Emmanuel Ramazani Shadary. L'ancien dirigeant gambien Yahya Jammeh et sa famille interdit d'entrer sur le territoire américain. La première ministre britannique Theresa May reporte le vote sur le Brexit qui était prévu demain au Parlement. Et puis le pacte des Nations Unies sur les migrations a été adopté à Marrakech ce lundi. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le Congolais Denis Mukwege et la Yazidi Nadia Mourad ont reçu ce lundi à Oslo le prix Nobel de la paix pour leur combat contre les violences sexuelles. Les lauréats ont appelé à renoncer à l'indifférence et à protéger les victimes de violences sexuelles, selon eux souvent reléguées derrière des considérations mercantiles. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard, a affirmé Denis Mukwege dans son discours de remerciement. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés, a dit le gynécologue congolais de 63 ans. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. L'Union européenne a annoncé la prolongation pour un an des sanctions visant 14 responsables congolais accusés de violations des droits humains, dont l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 23 décembre. Le point avec Nathalie Barche.
L'Union européenne considère Emmanuel Ramazani Shadary comme un des responsables de l'arrestation d'opposants et d'une violente répression de manifestations en 2017 à Kinshasa. En mai de cette année, son nom figurait parmi ceux de 9 responsables de la sécurité, ajoutés à une liste de personnalités déjà sanctionnées pour des violences en 2016. Il est aussi question d'un usage disproportionné de la force pour réprimer le mouvement Boudoudia Congo et d'autres manifestations au Kasaï. En octobre dernier, M. Ramazani Shadary avait protesté contre ces sanctions par la voix de ses avocats belges et avait demandé leur levée. L'Union africaine a également demandé la levée de ces sanctions. Parmi les 14 hauts responsables visés figurent le ministre de la Communication, Lambert Mende, et le chef de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo. D'après Bruxelles, ces sanctions consistent en un gel des avoirs sur le sol européen et une interdiction de visa jusqu'au 12 décembre 2019.
Le département d'État américain a annoncé l'interdiction d'entrée sur le territoire des États-Unis à l'ex-président gambien Yahya Jammeh, son épouse Zainab, sa fille Mariam et son fils Mohamed. Washington explique que Yahya Jammeh a commis des actes de corruption et des violations des droits de l'homme. Yahya Jammeh a quitté le pouvoir en 2017 après avoir perdu les élections en Gambie. Il a passé 22 ans au pouvoir. Au Togo, un homme a été tué par balle ce matin à Sokodé, le fief de l'un des principaux partis d'opposition dans le centre du pays, après un week-end de violence entre forces de sécurité et partisans de l'opposition. Selon Aimé Hadi, représentant d'Amnesty International pour le Togo, le corps a été envoyé à l'hôpital. Cette victime porte à 3 le nombre de personnes tuées depuis samedi. L'opposition demande l'arrêt du processus électoral. Grève en Côte d'Ivoire, 16 syndicats de l'enseignement primaire appellent à une mobilisation de 5 jours pour réclamer des améliorations de carrière et des conditions de vie. La grève est très bien suivie à Abidjan, à Bouaké et à Bundoukou et également à Sassandra selon la coordination de ces syndicats. Le point avec Morgane Guériec.
L'intersyndicale réclame la suppression des cours le mercredi, une amélioration des carrières et des conditions de vie via des concours exceptionnels de promotion, la finalisation du profil de carrière des fonctionnaires et la revalorisation de l'indemnité de logement. Le salaire mensuel d'un instituteur va de 200 à 250 000 francs CFA, mais celui d'un instituteur adjoint ne s'élève qu'à 100 000 francs CFA, d'après les syndicats. Le coût de la vie devient excessivement cher, il devient difficile pour les fonctionnaires de se loger, surtout à Abidjan, explique-t-il. La fonction publique ivoirienne est secouée par des grèves récurrentes depuis 2 ans, malgré la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la fonction publique et certains syndicats en août 2017. L'intersyndicale ivoirienne affirme représenter 70% des effectifs du ministère de l'Éducation nationale, qui compte 80 000 fonctionnaires.
Amnesty International a demandé à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram, accusant le Nigeria d'avoir échoué à traduire les responsables devant la justice. Le procureur de la CPI, Fatou Ben Souda, a ouvert une enquête préliminaire en 2010 concernant 8 affaires présumées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre de ce conflit qui a débuté en 2009. En Somalie, 92 des 275 députés ont déposé une motion de censure contre le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Le président a violé la constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Érythrée, selon le texte de la motion de censure. Début novembre, le président avait retrouvé ses homologues érythréens et éthiopiens lors d'une rare rencontre dans le nord de l'Éthiopie, destinée à renforcer l'intégration économique régionale entre leurs pays par le passé rivaux. Mais la motion a peu de chances d'aboutir car elle doit être votée par au moins le tiers du Parlement, soit 184 députés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, Theresa May a annoncé aux députés le report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne qui était prévu demain mardi en raison des profondes divisions au sein du Parlement britannique. Idriss Fall.
Nous allons reporter le vote prévu demain mardi, a dit Mme Theresa May, soulignant que les députés britanniques sont particulièrement opposés à la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, dite solution du backstop. À la Chambre des communes, il y a une forte résistance tant au sein de son parti conservateur qu'au sein du parti travailliste, l'opposition. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'est entretenu hier soir avec Theresa May sur la situation. Elle a annoncé ce lundi qu'elle allait discuter avec ses homologues à Bruxelles des préoccupations du Parlement britannique. L'accord mis sur la table le 25 novembre est le meilleur qui soit et le seul possible. Il n'est pas question d'une renégociation, a affirmé la porte-parole adjointe de la Commission européenne, Mina Andriva. Peu auparavant, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que le Royaume-Uni pouvait décider seul de renoncer au Brexit sans l'aval des autres États membres.
Le pacte de Marrakech vient d'être formellement approuvé. Quelques 150 pays ont ratifié ce texte sur les migrations piloté par les Nations Unies, qui a suscité beaucoup de critiques de la part des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières. Le point avec Raissa Girondin.
150 États ont approuvé le pacte mondial sur les migrations. Ce texte est censé aider les États à gérer les flux migratoires à l'échelle internationale, à lutter contre les facteurs de migration et lutter contre les trafics. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté à ne pas succomber à la peur sur la migration. Il a dénoncé les nombreux mensonges à propos d'un texte qui a soulevé les critiques des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières. Pas de quotas ou d'obligation d'accueillir, mais les États s'engagent à favoriser l'emploi et l'intégration des migrants et leur garantir l'accès à une protection sociale. Le texte est rejeté par les États-Unis, qui le jugent contraire à la politique d'immigration du président Donald Trump et aussi divise l'Europe. Une quinzaine de pays ont déjà fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. En Belgique, il a créé une crise politique. le Premier ministre belge, Charles Michel, a dû prendre acte hier de la démission de 5 de ses ministres. En France, l'extrême droite est vent debout contre ce texte et tente de le greffer au mécontentement des Gilets jaunes.
L'Arabie Saoudite est devenue en 2017 le premier pays importateur d'armes au monde devant l'Inde. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'armement à Riyad, loin devant le Royaume-Uni, la France et la Chine. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire envisage d'augmenter sa production d'or de 25 tonnes à 50 tonnes d'ici à 2025. Dans le souci de diversifier son économie, ce pays s'efforce de relancer son secteur minier longtemps négligé. Le chiffre d'affaires de ce secteur a progressé de 11,5%. Cette augmentation est principalement liée aux exportations d'or, de manganèse et de nickel. Au Nigeria, l'économie a progressé de 1,81% au troisième trimestre de 2018 sous l'impulsion du secteur non pétrolier qui a atteint 2,32% selon l'Office des statistiques. La production pétrolière a légèrement augmenté à 1,94 million de barils par jour contre 1,84 milliard de barils le trimestre précédent. Cependant, la croissance pétrolière s'est contractée de 2,91% par rapport à l'année précédente où la production était de 2,02 millions de barils par jour. Terminons avec la société sud-africaine de télécommunications MTN Group qui est toujours en pourparlers avec les autorités nigérianes concernant un différend de 8,1 milliards de dollars que MTN aurait envoyé à l'étranger en violation de la réglementation d'échange. La société a nié tout acte répréhensible. Elle fait également face à une demande fiscale de 2 milliards de dollars de la part du procureur général du Nigeria, une réclamation qui, selon MTN, est sans fondement.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La CAF attend une réponse de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023.
On attend, nous avons fait la même démarche qu'avec le Cameroun. Nous avons envoyé la lettre lundi ou mardi. Il y aura une réunion entre le Premier ministre et les gens qui s'occupent de l'organisation de la CAN. Donc on va voir, a expliqué Ahmad Ahmad, président de la CAF. La Côte d'Ivoire n'est plus le pays hôte de la CAN 2021 après le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et le décalage des éditions. En 2014, la CAF, alors présidée par Issa Hayatou, avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.
Le Cameroun, lui, est d'accord pour organiser l'édition 2021.
Le Cameroun, qui s'est vu retirer fin novembre l'organisation de la CAN 2019, est d'accord pour devenir le pays hôte de l'édition 2021, a assuré Ahmad Ahmad. J'ai la lettre, je communique avec la présidence de la République. On est d'accord pour 2021, a annoncé le président de la CAF.
On connaîtra le pays organisateur de l'édition 2019 le 9 janvier.
Après la clôture de l'appel à candidature programmé le 14 décembre, tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une shortlist de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Le comité exécutif va se réunir le 9 janvier à Dakar au Sénégal donc, où nous donnerons la décision, a expliqué Ahmad. Le président de la CAF a ajouté qu'il y a deux ou trois lettres d'intention qui ont été reçues, dont une de l'Afrique du Sud.
Et sur les pelouses, le triplé pour Oroya en Guinée.
Oui, après son sacre en coupe et en championnat, le club de Matam s'est adjugé la Super Coupe en battant 1-0. Wakuya Assé, son adversaire malheureux en finale de la dernière coupe. Godfrey Asante a inscrit le seul but de la partie à la 74e pour offrir à l'entraîneur français Patrice Neveu, récemment nommé, son premier titre avec le Oroya Assé. A noter que les vainqueurs ont tout de même fini le match à 10 suite à l'expulsion du défenseur Yakubu Oubou à la 73e.
Denis Lavagne, nouvel entraîneur du CS Constantine.
Oui, le club algérien a officialisé la nomination du français comme nouvel entraîneur. Denis Lavagne a signé pour 18 mois. Le technicien de 54 ans va devoir redresser la barre en championnat où le CS Constantine, tenant du titre, ne pointe qu'à la 8e place après 15 journées. Lavagne devra aussi passer l'obstacle Vipers SC de l'Ouganda pour assurer la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie, et on passe au dossier du jour. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, surnommé le docteur qui répare les femmes, a reçu ce lundi le prix Nobel de la paix avec l'activiste irakienne Nadia Mourad. Le docteur congolais qui a opéré des centaines de femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC appelle à la protection des victimes et à dire non à l'indifférence. Denis Mukwege, au micro de notre envoyé spécial à Oslo, Roger Muntu.
Ceux qui font la politique aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, c'est pas la politique.
Votre pays, docteur, la RDC, pourra connaître dans quelques jours, pour la toute première fois, des élections crédibles et pacifiques. Y croyez-vous, docteur ?
Je sais qu'il va se passer quelque chose le 23 décembre. Je ne sais pas si ça sera des élections. Je ne sais pas encore. C'est vous qui le dites que ça va être libre et pacifique, mais les signes que nous voyons, nous attendons que vraiment, je crois que le peuple congolais attend désespérément des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées.
On s'attend à ce que les docteurs puissent crier tout haut, je suis très content, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas que le docteur comprend l'ampleur de ce prix Nobel. Il y a tout un monde là-dehors, et je ne vous apprends rien, qui est venu de partout. Notre collègue d'ailleurs, Cathy, qui est avec moi, nous aussi aujourd'hui ici, qui vient du Nigeria. Mais on ne sait pas vous lire ça. Est-ce que le docteur est très content? Est-ce que le docteur est très satisfait? Comment on ne peut pas lire ça, hein? Docteur peut dire, Roger, je suis très content aujourd'hui. Dites au monde entier que je suis quand même content.
Mais Roger, comment je peux être content quand je viens des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ces prix nous permettent à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays. Si ces prix peuvent nous permettre de changer la situation des survivantes de par le monde, si ces prix peuvent nous permettre de pacifier le Congo, là, si nous avons de la paix au Congo, vous me verrez, Muntu, en train de crier très fort que nous avons gagné. Je vis avec la souffrance tous les jours, les honneurs. C'est pas ça le plus important.
C'était le docteur Denis Mukwege à Oslo. Et à Bukavu, dans le sud de Kivu, où le docteur Mukwege a installé sa clinique, les populations se disent fières de son travail. Elles espèrent que son œuvre va inspirer d'autres pour que la région retrouve la paix. Réaction sur place recueillie par Ernest Muero.
Je suis fier de ça, ce n'est pas moi-même, mais nous tous ici au sud de Kivu, parce qu'il mérite ça. Il travaille bien, il est très courageux.
Moi, je me sens très fier de lui, qu'il continue tout le travail qu'il fait, parce qu'il aide beaucoup les gens, les femmes violées.
À travers ce prix Nobel de la paix que notre frère Mukwege vient de recevoir, que la paix réelle se fasse sentir dans notre pays, et que finalement, tout ce qui crée des conflits, qui crée des problèmes chez nous, finisse par disparaître et que la paix règne à jamais.
Il s'est donné corps et âme pour aider les gens. En tout cas, je peux seulement lui dire coup de chapeau et que Dieu lui bénisse. Nous voulons que nos femmes soient dans leurs droits. Et lui, comme docteur, il a déjà le renommé. Il peut plaider encore plus pour que la violence puisse cesser dans notre pays.
C'est pas donné à tout le monde. Le travail que Mukwege a fait sur les femmes violées, sa forte implication à aider les autres, à risquer même sa vie à plusieurs moments. Et je crois qu'il ne va pas se fatiguer à continuer à faire la même chose.
Le prix traduit pour moi une capacité de rechercher la paix, de construire cette paix. Je lui dirais de continuer la lutte parce que la lutte est gagnée et n'est pas encore gagnée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
C'est une joie parce que je l'ai suivi. Il parlait de la souffrance de l'Est. Donc je pense que ce prix-là, c'est tout un espoir pour le pays. Et nous avons des femmes, des filles dans des zones meurtries, comme Beni, comme dans les Kassai, dans l'Ituri. Et toutes ces filles-là, ils veulent voir Mukwege pour soulager tant soit peu leur souffrance. Il peut penser à certains projets, comme il a fait ici à Bukavu, pour tant soit peu soulager les souffrances des femmes et des filles de ce coin de la République.
Voilà, c'était quelques Congolais rencontrés dans les rues de Bukavu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Cameroun, selon de récentes estimations, au moins 500 000 ressortissants des régions anglophones sont installés désormais dans les villes francophones du pays. Ces déplacés qui ont fui le conflit en zone anglophone vivent dans la plupart dans des conditions précaires. C'est un constat de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
À Yaoundé, Timothée Moussorongo héberge 11 déplacés internes de la crise anglophone. Pour les nourrir, il a fait un champ dans un marécage du quartier Fulan, et y passe désormais 2 heures chaque jour. Au total, 18 personnes cohabitent dans sa maison de 4 pièces.
Mon séjour ici à Yaoundé est bon parce que je parviens à présent à dormir. Avant, je pouvais passer toute une journée sans dormir à cause des coups de feu.
David est l'un des déplacés internes hébergés par Timothée Moussorongo.
Je voudrais rester ici jusqu'à ce que le coup de feu cesse et puis je vais rentrer. Parce que quand j'ai quitté le sud-ouest, ma maison était comme ici et les ambazoniens tiraient sur les maisons des gens et tuaient les gens.
À la paroisse presbytérienne anglophone de Siméon, l'un des quartiers de Yaoundé, plus de 200 déplacés internes ont été recensés ici et assistent régulièrement au culte dominical. Sous anonymat, certains évoquent leurs conditions de vie à Yaoundé.
Ma vie à Yaoundé est terrible. Je ne comprends pas la langue, même pour discuter avec les gens, pour dialoguer. Je me sens très mal ici.
Je suis ici depuis 4 mois avec mes 3 enfants. Ce n'est pas facile après avoir quitté mon lieu de résidence à Bouéa, à Mouyouka. Je suis ici avec ma petite sœur. Nous vivons chez elle et j'ai des difficultés à payer les frais de scolarité. Je fais à manger et je vends au marché. Je vais d'un point à l'autre parce que je n'ai pas encore un endroit fixe pour m'asseoir.
J'ai fait déjà 6 mois ici à Yaoundé. Je ne fais rien, je vais seulement à l'église. Chaque jour, je suis là, j'attends seulement le temps que Dieu va toucher les gens, je vais rentrer chez moi.
Ces déplacés saluent à juste titre les langues de solidarité de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne de Siméon, où un comité d'assistance aux déplacés internes a été mis sur pied. Les denrées alimentaires, les vêtements et de l'argent en espèces ont d'ailleurs été offerts à certains parmi eux. Cependant, la solidarité pour les déplacés anglophones à Yaoundé a parfois engendré des suspicions, témoigne Timothy Moussorongo.
Le ministère des gendarmeries avec le chef du quartier sont venus chez moi à la façon que les gens ont donné le conseil que le papa là, il a gardé les ambazoniens chez lui avec les armes. Ils sont venus à 3h du matin, ils ont dit que ils vont fouiller la maison. Bon, après plusieurs mois, tout s'est passé bien.
Le 21 novembre dernier, le gouvernement camerounais a créé un centre de coordination de l'assistance humanitaire d'urgence pour encourager notamment les réfugiés internes à revenir au bercail. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, la dépigmentation touche de nombreuses femmes de teint noir. Ces Guinéennes utilisent des crèmes et des médicaments pour se blanchir la peau, une pratique non sans risque pour celles qui veulent se faire aimer par les hommes. Devant le phénomène de plus en plus inquiétant, une jeune dame propose des produits cosmétiques naturels faits maison. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
À 29 ans, Fantasso, diplômée en audit et expertise, vit l'une de ses passions, le soin du corps. La démonstration à laquelle nous sommes invités est une occasion pour cette férue des cosmétiques de défendre ses savons.
Ça, on appelle ça la trace.
Ça, c'est le début de la saponification. C'est à partir de là, de la trace, qu'on va ajouter notre ingrédient qui va créer la différence spécifiquement pour un soin qu'on a décidé de faire. Je sais qu'après, les gens vont se poser la question, on parle de naturel, mais on parle de soude caustique en même temps. Alors, la soude caustique naturelle ne veut pas dire bio.
La première étape de la saponification est terminée. Le mélange est recueilli dans un moule, mais il faudra attendre 2 semaines avant de retirer les savons qui seront ensuite exposés dans la boutique BHV Cosmétique. En 2 ans, la fabrication a doublé, passant de 50 à plus de 100 savons. Les clientes se disent satisfaites. Ange-Marie s'est débarrassée des boutons au visage après 6 mois d'utilisation des savons de Fanta.
Je lui ai montré ma peau. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'elle avait la solution. Les produits m'ont été livrés et depuis, je suis le traitement et c'est vraiment bon. J'ai encore quelques taches, mais ça va. Les boutons, ça va, franchement.
Dans la capitale, les produits éclaircissants sont bon marché et un quart des femmes reçues au service de la dermatologie de l'hôpital Donka viennent à cause de ces produits. Mariam a vu sa peau s'éclaircir, mais pas comme elle aurait souhaité. Et depuis quelques mois, elle a arrêté d'utiliser les crèmes éclaircissantes.
Je me suis lancée dans la dépigmentation parce que j'avais des amis très clairs qui se dépigmentent et ils m'ont encouragée de me dépigmenter. Dès chaque fois, ce qu'ils utilisent m'amène, j'ai ressenti ces douleurs-là sur mon corps, des boutons. C'est en ce moment-là que je me suis retirée.
La peau de Mariam est redevenue comme avant grâce au savon de Fanta. La jeune dame qui savoure un coup de maître après un coup d'essai n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
L'objectif pour moi, c'est qu'on dise aujourd'hui que tous les Guinéens n'utilisent que des produits cosmétiques naturels, qui sont en pleine santé, parce que l'idée derrière, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, BHV soit vraiment le point focal de toute utilisation cosmétique en Guinée, un incontournable.
Dans sa boutique, Fanta propose toute une gamme de produits pour le soin des cheveux, des huiles et savons pour le corps. Si elle commence à se faire un nom dans la capitale, Fantasso est convaincu que le chemin pour la saponification naturelle est long, tant la majorité des Guinéens utilisent les produits cosmétiques industriels. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Firmin Koyaveda, à la présentation Abdourmandia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.